Place Info.
Bonjour Caroline de Haas.
Bonjour.
C'est un livre dont on parle depuis plusieurs jours maintenant, mais qui paraît aujourd'hui, ce jeudi, Le consentement, où Vanessa Springora dénonce l'emprise qu'a exercée sur elle l'écrivain Gabriel Matzneff. Elle avait 14 ans à l'époque. Est-ce que ce livre, la sortie de ce livre, est un tournant supplémentaire dans la libération de la parole ?
On a tout le temps parlé de tournant. Moi, je parle plutôt d'accélération. C'est pareil avec le témoignage d'Adèle Haenel, par exemple. C'est pareil avec MeToo. Et en fait, assez régulièrement dans l'histoire de notre pays, il y a des moments comme ça de prise de conscience et d'accélération de l'histoire. Ce qui est assez particulier cette fois-ci, par rapport à MeToo, c'est que le témoignage, que ce soit celui d'Adèle Haenel ou de Vanessa Springora aujourd'hui, parle d'un sujet qui est encore plus tabou que les violences que subissent les femmes, qui est le sujet des violences sexuelles que subissent les enfants. La pédocriminalité en France, alors qu'elle est assez importante, l'association L'Enfant Bleu a fait une enquête et a estimé que 16% de la population française, 16%, avait subi des maltraitances sexuelles dans l'enfance. Donc on ne parle pas d'un petit sujet, on parle d'un sujet qui concerne beaucoup de monde.
Mais ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu justement toutes ces paroles ces derniers mois ?
Oui, sans doute. Alors, moi, quand on parle de MeToo, je parle en général pas de libération de la parole, parce que les femmes victimes de violences, que ce soit de violences dans leur enfance ou de violences en tant qu'adultes, elles ont toujours parlé, de tout temps. Ce qui a changé avec MeToo, c'est l'écoute. On a plutôt libéré les oreilles, en fait. On s'est mis à entendre les témoignages de violence. Et en matière de pédocriminalité, il y a encore une chape de plomb très forte qui pèse sur notre pays. On a du mal à entendre la réalité de ces violences. D'abord parce qu'elles sont extrêmement douloureuses. Elles nous paraissent complètement insupportables, en fait. C'est tellement impossible à concevoir qu'on va violenter des enfants qu'on a du mal à accepter cette réalité. Pourtant, la réalité, elle est là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants en France qui subissent des maltraitances et qui subissent des violences sexuelles.
Alors, Gabriel Matzneff, Caroline de Haas, écrivain, pédophile, assumé et édité, avait 50 ans à l'époque des faits relatés par Vanessa Springora, qui s'exprime dans Le Parisien aujourd'hui en France et dénonce l'aveuglement de tout un milieu. Extrait.
Ce n'était pourtant pas très difficile de savoir qui était Matzneff à l'époque. Il y a eu un dysfonctionnement de toutes les institutions, scolaires, policières, hospitalières. C'est ça qui est sidérant face à un militant de la cause pédophile qui a publié des textes en ce sens et qui s'en glorifie. Tout était déjà à disposition. Dans les moins de 16 ans, il y a des citations terrifiantes. De toute façon, la loi aurait pu et dû s'en mêler.
Vous dites, Caroline de Haas, la libération de la parole s'accélère aujourd'hui. Ce n'est pas un tournant réellement, ça va plus vite. Mais tout de même, à l'époque, c'est une époque récente. Être parent, c'était comme aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait à ce moment-là ?
Vous savez, on a beaucoup entendu ces dernières semaines le fait que, autre époque, autre mœurs. En fait, la pédocriminalité, elle est punie dans la loi depuis 1810, en fait. Donc, moi, l'argument autre époque, autre mœurs, je le reçois pas. Déjà à l'époque où Vanessa Springora était une jeune enfant, déjà à l'époque, la pédocriminalité était punie. Et c'est très important ce qu'elle dit dans son interview. Il y a eu des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements, ils existent encore aujourd'hui. Quand vous voyez qu'il y a des affaires qui sortent après un an, deux ans, dix ans parfois de violence, et que ce soit à l'école, que ce soit à la police ou à la gendarmerie, que ce soit au niveau de la justice ou au niveau de l'hôpital, on n'a pas été capable de détecter, c'est bien qu'il y a un problème, et ce problème, en fait, c'est lequel ? C'est un problème de formation des professionnels. Quand vous voyez qu'il y a des femmes qui vont porter plainte au commissariat et qu'on renvoie chez elles en leur disant « Écoutez, c'est pas possible, on va pas se déplacer pour une affaire de couple », c'est bien qu'il y a un problème de prise en charge des violences, et ce qu'elle souligne là, Vanessa Springora, ça existe encore aujourd'hui en France.
Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le statut de celui qu'elle appelle son prédateur ? C'est pas ça qui est en jeu, selon vous ?
En fait, la pédocriminalité ou les violences sexistes et sexuelles, elles existent dans tous les milieux. Donc il y a peut-être dans les lieux où il y a beaucoup de pouvoir, une chape de plomb plus forte, ça c'est possible, que ce soit dans le milieu politique, dans le milieu culturel, dans le milieu du cinéma. Mais penser que c'est un certain milieu qui est concerné par ce type de violence, je pense, c'est faire une erreur. Et c'est par ailleurs, résultat, se tromper sur le diagnostic et se tromper sur les solutions.
Mais vous dites à l'instant pas détecté, vous avez raison d'ailleurs, certains crimes ne sont pas détectés, il faut du temps. Mais là, en l'occurrence, il était édité, voire même primé. Vous diriez que M. Matzneff a bénéficié du soutien d'une partie, d'une intelligentsia de gauche qui aurait banalisé la pédocriminalité ?
Mais encore une fois, je veux dire, c'est comme ça partout. C'est-à-dire qu'on a déjà toutes et tous assisté à des soirées entre potes où on a vu un homme mal parler à sa conjointe. Et on s'est dit, oh là là, ça a l'air compliqué. alors qu'en fait, on avait sous les yeux une forme de violence psychologique. Et on sait toutes, enfin, je veux dire, ça nous est déjà arrivé d'être témoins de violence et de se dire parce que c'est la société qui fonctionne comme
ça. Mais ces récits qui concernent des enfants, je ne sais pas, on ne va pas établir de gradation dans le crime hein, ou dans les agressions, mais tout de même, des enfants, enfin, ce qui est écrit noir sur blanc, sont quand même. C'est choquant.
Oui, c'est très choquant. Il y a eu une campagne très intéressante qui a été faite par une association de protection de l'enfance à partir d'Instagram et qui a montré à partir de photos d'Instagram que en fait les violences que subissent les enfants, on pouvait les détecter, on pouvait les voir. Et donc ne pensez pas que ce qui s'est passé avec Matzneff est une exception. La réalité c'est que on peut voir les violences que subissent les enfants dans notre pays. Mais pourquoi on les voit pas? Parce qu'on n'est pas formé à le détecter, parce que parfois on n'a pas envie de voir, parce que c'est trop douloureux, parce que parfois ça nous rappelle nos propres histoires ou nos propres vies. Si nous par exemple on a des enfants, on n'a pas trop envie de savoir qu'il y a des violences que subissent ces enfants, parce que ça peut être très douloureux. Et donc, cette chape de plomb, elle n'existe pas uniquement dans le milieu culturel, elle existe partout.
Mais qu'est-ce qu'on fait de ça, maintenant, une fois que la parole s'est libérée ou que les oreilles se sont ouvertes pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure? Est-ce qu'il faut, par exemple, remettre sur la table la question de l'âge du consentement?
Oui. Et c'est ça qui est très paradoxal, par ailleurs, dans notre société. C'est qu'on est dans une période de mobilisation, de prise de conscience, enfin, inédite. Moi, j'ai participé à la marche qu'on a organisée avec nous toutes le 23 novembre dernier. C'était la plus grande marche féministe de l'histoire de France. Donc, on est dans un moment de prise de conscience immense. Et ce qu'on observe, c'est qu'en face, les politiques publiques, elles sont pas au rendez-vous. Il n'y a pas de répondant de ce côté-là, que ce soit sur les moyens ou que ce soit sur les lois. Et cette question de l'âge de consentement, je rappelle que Emmanuel Macron s'y était déclaré favorable. Il avait dit d'accord, on va mettre un seuil d'âge en dessous duquel un acte sexuel avec un enfant est systématiquement considéré comme un viol. Eh ben, il a renoncé. Et résultat aujourd'hui, pour
parce que la terminologie, c'est atteinte sexuelle sur mineur. Hein.
En fait. Oui. Pour caractériser le viol, il faut caractériser soit la violence, soit la contrainte, soit la menace, soit la surprise. Souvent, les gens me disent « Oui, mais d'accord, mais un enfant, forcément, il y a une contrainte. » Eh ben non. En fait, dans la loi aujourd'hui, si on veut qualifier un viol, il faut qualifier un de ces quatre. Si on peut pas prouver un de ces quatre, la justice dira qu'il n'y a pas eu viol.
Et c'est là-dessus qu'il faut agir, hein. Pardonnez-moi.
Tout à fait, il faut instaurer un seuil d'âge en dessous duquel, systématiquement, on considère qu'un acte sexuel sur un enfant est un viol.
Caroline Dehaas, restez avec nous, on va continuer à parler notamment de cette mobilisation inédite dont vous parliez sur les violences faites aux femmes. Ce sera juste après le rappel de l'actualité, puisqu'il est 8h40 et c'est avec Lauriane Delanoë.
29 jours de grève à la SNCF, c'est un record, le mouvement plus long qu'en 1986. La moitié des TGV et TER maintenus, aujourd'hui un quart des intercités. À la RATP dans Paris, 15 lignes de métro sur 16 circulent, mais très partiellement, seulement à certaines heures pour la plupart. Et contre la réforme des retraites en ce moment, des militants CGT et des gilets jaunes bloquent des entreprises de transport près de Rouen. Un homme avoue être l'auteur du coup de feu qui a tué une jeune femme hier matin, la nuit du réveillon à Montpellier. Ce suspect parle d'un accident. Il sera réentendu ce matin comme 3 autres personnes en garde à vue avec lui. 17 personnes portées disparues en Australie, l'île dévorée par des incendies incontrôlables. Toute une zone très touristique doit être évacuée des villes le long de la côte sur une bande de 200 km. Si autant de Français connaissent la NBA, c'est grâce à lui, David Stern, l'ancien patron de la Ligue américaine de basket, est mort hier à 77 ans.
France Info. Et tout est plus clair.
Vous avez passé l'année, Caroline Dehaas, à alerter sur le manque de moyens qui, pour faire face aux violences faites aux femmes, qui a culminé, vous le disiez, avec ces manifestations un peu partout en France le 23 novembre dernier. Est-ce que vous diriez que le mot même de féminicide s'est imposé en 2019? Est-ce que vous y voyez, pour vous en tout cas, une victoire?
Moi, je suis très optimiste sur la situation, puisque j'ai le sentiment que la société, elle est en train de bouger à toute allure. C'est-à-dire que la situation aujourd'hui en France, le niveau de prise de conscience, le niveau de mobilisation des citoyennes et des citoyens n'a rien à voir avec celui qu'on connaissait il y a 10 ans. Vous savez, là, on n'a pas arrêté de faire les 10 ans. Bon, la situation il y a 10 ans était radicalement différente. Donc, on est dans un mouvement d'accélération très important. Et c'est là où il y a un paradoxe. C'est qu'en face, les politiques publiques, elles sont pas au rendez-vous. Alors que le président de la République aurait sans aucun problème une majorité politique, une majorité sociale pour mener des politiques publiques ambitieuses pour en finir avec les violences, il n'est pas là.
Vous dites que le Grenelle ne sert à rien ?
Non, le Grenelle, il a permis de prendre quelques mesures. Mais la réalité, quand vous regardez qu'est-ce qui va se passer en 2020? En fait, quand vous voulez regarder les politiques publiques qui sont mises en place, il y a un document à aller regarder, c'est le projet de loi de finances, ce qu'on appelle le PLF 2020. Donc je suis allée regarder le PLF 2020. Et ben le PLF 2020, il montre exactement ce qu'on va faire l'année prochaine. Et ben ce qu'on va faire l'année prochaine, c'est peu ou prou les mêmes politiques publiques qu'en 2019.
Oui, vous êtes allé chercher les financements sur Mediapart, vous avez vous-même dénoncé au fond que sur les 17 millions d'euros d'accroissement de moyens mis à disposition de la lutte contre ces violences en question, il n'y aurait, vous dites, qu'au fond, une faible part, 5% de dépenses nouvelles. Mais est-ce qu'au fond, ça ne dépasse pas la question des moyens? Il n'y a pas aussi la prise de conscience et l'engagement des uns et des autres?
Oui, mais encore une fois, ouais. La prise de conscience, elle passe par quoi? La prise de conscience, regardez, on va prendre une thématique sur laquelle on a réussi à faire changer les choses. La sécurité routière. Comment ça se fait qu'aujourd'hui en France, la prise de conscience sur la sécurité routière, elle a plus rien à voir avec celle d'il y a 30 ans? Parce qu'on a fait de manière obligatoire de l'éducation à l'école, parce qu'on a formé les professionnels, parce qu'on a fait des campagnes de communication toute l'année, parce que le président de la République a mobilisé les services de l'État. Les présidents de la République, d'ailleurs, successifs, ont mobilisé les services de l'État.
Ça, c'est l'engagement, ce ne sont pas forcément les moyens.
Mais ça demande de l'argent. Comment vous formez des élèves? Bah, avec de l'argent. Comment vous formez des professionnels? Avec de l'argent. Comment vous faites des campagnes de com? Il y a bien un moment où ça apparaît dans le budget. Donc, moi, je suis toujours interpellée quand on dit c'est pas qu'une question de moyens. Mais la prise de conscience, elle passe aussi par des moyens. Et là, les moyens sont pas au rendez-vous. L'État va mettre 361,5 millions d'euros en 2020 sur la question des violences. C'est quasiment la même somme que l'an dernier. Je rappelle qu'en 2019, 149 femmes sont mortes, tuées par leur conjoint ou par leur ex. 149 féminicides. Ouais. Même moyen, ça veut dire qu'on aura globalement les mêmes chiffres. On ne fera pas baisser les violences avec les mêmes politiques publiques.
Alors, on entend effectivement votre déception qui s'exprime depuis plusieurs mois maintenant sur la question des moyens, les moyens alloués à la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais il y a autre chose, il y a le changement de mentalité, il y a les termes aussi, ce qui est inscrit dans la loi. La notion d'emprise conjugale, par exemple, sera inscrite dans le code civil et le code pénal. C'est ce qu'avait dit Édouard Philippe, le Premier ministre, lors de la présentation justement des résultats du Grenelle. Est-ce que vous n'y voyez pas quand même là la preuve que ça avance petit à petit, que les termes se précisent aussi?
Les choses, elles avancent, c'est clair. La question, c'est est-ce qu'elles avancent suffisamment vite? Est-ce qu'on va voir en 2020 une baisse du niveau de violence sexiste et sexuelle en France et une baisse du nombre de féminicides? Si on veut voir baisser de manière effective les violences en France, ça demande une éducation dès le plus jeune âge et une formation des professionnels. Et ça, on l'a pas. Quand vous regardez les résultats du Grenelle, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que les mesures qui sont mises en avant par le gouvernement sont plutôt des mesures de traitement des violences. Une fois que les violences ont eu lieu, bracelet électronique par exemple, ou emprise, voilà, mettre l'emprise dans la loi pour permettre aux femmes qui sont sous emprise de faire reconnaître ce fait-là. Mais il n'y a pas de mesures qui vont permettre de prévenir les violences en amont. C'est pareil, je refais le parallèle avec la sécurité routière. Comme si en matière de sécurité routière, on ne faisait que des mesures pour traiter les accidentés de la route et pas pour empêcher les accidents.
Mais qu'est-ce que vous diriez là ce matin, clairement, si vous l'aviez en face de vous, à Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, qu'est-ce que vous lui demanderiez pour 2020 sujet?
C'est pas, malheureusement, c'est pas Marlène Schiappa qui
décide. S'engage quand même.
Non. Mais, bien sûr qu'elle s'engage. Mais d'ailleurs, si c'était elle qui décidait directement des moyens mis sur la table, je pense qu'on en aurait beaucoup plus. C'est pas Marlène Schiappa qui décide. Qui décide aujourd'hui en France quand on veut mettre en place une politique publique nouvelle? C'est le président de la République. Et le président de la République, sincèrement, on le voit, c'est pas son sujet, la question des violences. Je pense, il en a même pas parlé pendant les vœux. C'est-à-dire que on est dans une année où on a atteint un chiffre inédit de féminicides en France.
Vous avez
149
tweeté,
femmes,
mardi hein, dernier, enfin,
il n'en a pas
le
31,
parlé. Le 149,
pas oui, un mot oui. Dans ses vœux sur cette question-là.
Alors vous parlez de politique, de moyens, on peut parler de justice aussi. Est-ce qu'il faut davantage traduire tout cela, toutes les évolutions dont vous parlez devant les tribunaux? Si on prend par exemple, si on reprend le cas de ce que dénonce Vanessa Springora dans son ouvrage Le Consentement, est-ce que Gabriel Matzneff par exemple doit répondre de ses actes aujourd'hui devant un tribunal?
Alors, il faudrait d'abord qu'il y ait des nouveaux témoins qui parlent, parce que je pense qu'il y a une question de prescription hein, sur les actes qui sont dénoncés par Vanessa Springora. S'il y a des nouveaux témoins, des nouvelles victimes qui s'expriment, peut-être que cette prescription va tomber. Ce qui est certain, c'est que on ne s'en sortira pas uniquement avec des changements législatifs. La loi, elle peut encore évoluer, notamment sur la question du seuil d'âge pour les mineurs. Mais globalement, la loi en France, elle est assez protectrice en matière de violences sexistes et sexuelles.
C'est quoi le souci? C'est l'application de la loi?
Le problème, c'est l'application. Je vous prends la question, par exemple, du harcèlement sexuel au travail. La loi sur le harcèlement sexuel au travail, elle est très précise. Elle est précise sur la définition du harcèlement, elle est précise sur les obligations des entreprises. Aujourd'hui, il y a à peine 20% des entreprises en France qui appliquent effectivement les lois en matière de prévention du harcèlement sexuel au travail. Donc c'est pas tant un problème de texte législatif que d'application de ces lois-là.
Mais alors à ce moment-là, est-ce qu'au fond, les éditeurs ne seraient pas concernés? Quand on relit cette interview qu'accorde ce matin Vanessa Springora aux Parisiens aujourd'hui en France, elle se dit assez étonnée, je la cite, hein, elle parle de Maznev, elle dit de lui un vieux monsieur dans la misère qui n'est plus en mesure de nuire à qui que ce soit. Pour elle, c'est tout, on en a parlé tout à l'heure, toute l'hypocrisie d'une époque. Et au fond, est-ce que les éditeurs ont une part de responsabilité quand ce type d'écrit, de révélation arrive sur la place publique?
En fait, il y a un article de loi assez clair, hein, c'est que si vous êtes informé de faits de violences sexuelles sur des enfants, vous devez, en tant que citoyen ou citoyenne, appeler le procureur de la République. Et c'est-à-dire que les éditeurs, quand ils ont reçu le brouillon, enfin le texte de Maznev, ils auraient dû appeler immédiatement le procureur. Je veux dire, on savait que c'était ils racontaient des choses qui s'étaient effectivement passées. La responsabilité des violences, elle est uniquement de celui ou celle qui commet les violences. Par contre, il y a une forme de responsabilité ou de veille collective qu'on pourrait mener. Depuis quelques jours, par exemple, on observe beaucoup de médias qui parlent d'affaires de pédocriminalité. Je vous prends la une de Libération l'autre jour, la une de Libération sur Maznev. Ils sous-titrent. Il parle des viols en parlant débat avec les enfants.
Qui a fait réagir.
Mais oui, voilà. Sur les réseaux sociaux. On parle pas de débat notamment avec les enfants. Des apostrophes, hein, débat. On parle de viols sur enfants. L'AFP, ce matin, qui fait un tweet et qui parle de deux regards sur la pédophilie. Mais vous vous dites, mais en fait, c'est pas une opinion, c'est pas un courant de pensée, la pédocriminalité, c'est un crime.
Il faut une précision.
Il
n'y
a pas genre le regard historique et puis le regard, artistique sur la pédocriminalité. C'est quoi ces termes-là? Tous ces termes, tous ces mots, ils visent à banaliser la gravité des violences et de fait à faciliter la tolérance de la société vis-à-vis de ces violences sexuelles.
Est-ce que les choses changeront quand il y aura une condamnation après une prise de parole publique forte de la part des victimes?
Oui, encore une fois, moi je pense que l'enjeu principal, c'est un enjeu de prévention pour faire en sorte que ces violences n'arrivent pas. On est dans une société où le niveau de violence est tel, on estime qu'une femme sur 10 est victime de violences conjugales, 32% des femmes ont subi du harcèlement sexuel au travail. La solution n'est pas de mettre tous les harceleurs en prison, ça ne marchera pas. Bon, après, par ailleurs, on peut aussi se poser la question de est-ce que c'est utile de mettre les gens en prison? C'est un autre débat. Mais ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut qu'on arrête ces violences. Il ne faut pas uniquement être dans un traitement judiciaire a posteriori. Il faut faire en sorte que les personnes aujourd'hui qui violentent arrêtent de violenter.
Alors, on n'aura pas le temps d'ouvrir effectivement d'autres débats. Merci beaucoup, Caroline Dehas, en tout cas, d'avoir été avec nous sur France Info, membre du collectif Nous Toutes. Merci à vous, Jean-François Aquili. On se retrouve demain, évidemment, pour l'invité de 8h30.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis. Un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.